fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le saut dans le vide. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Hélène est à sa coiffeuse dans sa chambre. Elle se donne un coup de peigne. La porte de la chambre s'ouvre. C'est son fils Didier. Il s'approche d'elle, boudeur. Elle le voit dans le miroir, soupire et se tourne vers lui. Pourquoi est-ce que tu me fais la tête ? C'est parce que je sors. Eh bien oui, je sors. J'avais envie d'aller écouter un concert. Oh, et puis, hein, écoute, tu as 13 ans maintenant. Elle pose sa brosse sur la table. Et lui prend les mains. Nous vivons ensemble tous les deux. Je ne veux pas te mentir. Tu es assez grand pour comprendre. Tu sais, ton père et moi, nous ne nous aimions pas. Il a voulu se marier avec moi parce que j'étais enceinte et qu'il voulait un héritier. Et moi, je me suis mariée avec lui pour son argent. C'était, comme on dit, un mariage d'arrangement. Tu sais, beaucoup de gens le font, et ce ne sont pas les plus mauvais mariages. Ça a au moins un avantage, c'est que ça dure plus longtemps que l'amour. Alors, tu comprends que maintenant que ton père est mort, je ne veux pas jouer les hypocrites. Non, nous allons continuer à vivre comme d'habitude et faire ce que nous aimons. J'aime sortir, je sors. J'aime voyager, je voyage. J'aime jouer, je joue. Voilà, mon chéri. Et toi aussi, il faudra que tu en fasses autant. De toute façon, nous sommes très riches. Et si l'on ne dépense pas cet argent, il reviendra à l'État et à tante Héloïse, qui est une vieille biote. Voilà, mon chéri. Elle se lève. Elle est un peu plus grande que lui. Il est temps que je parte. Elle l'embrasse sur la joue et sort de la pièce. Didier la regarde. Elle est grande, mince, blonde et paraît pas ses 40 ans. Sa robe argentée lui va à merveille. Une fois qu'elle a fermé la porte, une sensation de vide et de panique s'empare de Didier. Chaque fois qu'il est seul dans cette grande maison, il a l'impression de se trouver dans un tombeau. Toutes ces pièces, ces couloirs aux murs recouverts de marbre et de meubles tellement grandioses qui semblent impersonnels comme ceux d'un musée. Il décide de passer la nuit dans la chambre de sa mère, parce que là, au moins, il y a son parfum. De toute façon, elle ne rentrera pas avant demain matin. C'est son habitude et il le sait. Didier paraît plus grand que son âge. Il est mince, un peu maigre même. Les cheveux bruns, le visage triste, un peu boudeur, la peau très blanche. Il s'habille avec des costumes marines et des chemises à rayures marines et blanches. Ce n'est pas la mort de son père qui l'a rendu mélancolique. Il l'a toujours été. C'est une mélancolie d'ennui, de besoin de rien, ou plutôt d'un énorme besoin d'affection. Depuis sa plus tendre enfance, il n'a jamais eu d'amis. Il a toujours été entouré d'adultes. Chaque fois que ses parents voulaient qu'il s'amusât, on lui donnait un billet pour qu'il aille jouer. Son premier billet de 500 francs, il l'a eu à l'âge de 5 ans. Ses parents l'ont choyé, prouvé leur affection comme cela. Et ceci a rendu triste Didier, mélancolique. Très tôt, il sentait un grand vide s'emparer de lui. Un froid de mort. Hélène et Didier voyagent beaucoup. Ils quittent leur ville de Charbonnières pour aller à Deauville où ils ont une maison. Hélène a la passion des jeux et passe ses nuits au casino de la ville où elle se trouve.
Rien, va peu.
Je me sens pas bien. Je suis pas habituée trop d'émotions.
11, noir.
Ils sont tellement riches que leur perte qu'ils ont ne les gêne pas. Le père, Hector Orferi, leur a laissé une immense fortune. Il faisait de l'import-export dans le monde entier.
Rien, va plus.
Je me sens pas bien. Je suis pas habituée trop d'émotions.
11, noir.
Vous voulez sortir un peu ?
J'aimerais bien.
Hélène, dans les casinos, est très souvent remarquée et draguée.
Personnel.
Merci, monsieur, pour service.
C'est dommage, justement, j'allais gagner.
Ce sont souvent des jeunes gens qui se trouvent en difficulté financière. Et comme Hélène aime les jeunesses, elle se laisse facilement prendre au jeu. Elle les amène quelquefois chez elle. Et ils restent un jour ou deux à la maison. Cela ne la gêne pas que Didier les voie. Et Didier s'en accommode car c'est la seule distraction qu'il a. Les jeunes gens sont plus près de son âge que de celui de sa mère. Ce qui fait qu'il peut s'en faire des compagnons de jeu. Suit sa scolarité par correspondance, comme il voyage beaucoup et que sa mère ne voulait pas le pensionnat, c'était la seule solution. C'est un bon élève qui apprend très vite et il est en avance sur son âge, peut-être même un peu trop, car on a l'impression qu'il n'a pas eu d'enfance. Ainsi, entre les voyages, les jeux et les amants de sa mère. Ils sont à Charbonnières, il est 21h. Didier est dans sa chambre à faire ses devoirs. Il a 17 ans maintenant, mais n'a pas changé, sauf qu'il a grandi et est aussi grand que sa mère. La porte de sa chambre s'ouvre. C'est Hélène. Elle est en robe de soie rose. Elle s'approche de son fils. Elle est toute pâle.
Je me sens pas très bien.
Et elle tombe. Deux heures plus tard, dans une clinique privée des environs de Lyon, Didier est assis sur une chaise dans un couloir. Un médecin à blouse blanche, grand, fort, avec une barbe grise, s'approche de lui.
Didier, mon petit, il va falloir être bien brave. Ta maman est morte d'une crise cardiaque.
Didier est effondré. La seule personne qui s'occupait de lui n'est plus. Il a la tête vide et se sent encore plus enfoncé dans la solitude. Pauvre Didier. Comme Didier est encore mineur, le médecin a prévenu le seul membre de sa famille. C'est une tante, la sœur de son père. Elle arrive en taxi à 10h du matin. C'est une petite femme, maigre, cheveux gris en chignon, visage sec. Grecque, habillée de noir avec un sac à main et un parapluie. Vieille fille, avare, égoriste et bigote. Elle n'a jamais vu Didier, elle ne s'est jamais occupée de lui. Elle n'aime pas les enfants ni les garçons. Le sexe masculin, ça la dégoûte. C'est le péché, le viol. Une infirmière l'amène dans un bureau prêté par le médecin-chef pour qu'il puisse se voir. Elle entre. Didier est assis, effondré sur une chaise, la tête baissée. Elle s'approche de lui. Avec son parapluie, elle lui tapote le bras.
Lorsqu'une femme entre dans une pièce, on doit se lever, jeune homme.
Bonjour. Didier fait le geste de se lever.
Restez assis. Je suis votre tante Héloïse.
C'est moi qui suis obligé de m'occuper de vous.
Je n'aime pas les garçons. Et ta mère ne me plaisait pas. Tu vois, je te dis tout. Par commodité, nous allons vivre chez toi. Après l'enterrement, nous verrons ce que nous ferons de toi.
Didier est dans un état qui se soucie si peu de ces choses et se laisse mener par sa tante. Elle s'est occupée de tout, des déclarations, préparation d'enterrement, et elle a vécu jusqu'au jour de l'enterrement avec Didier chez lui. Après l'enterrement, elle lui dit
« Il faut que je retourne vivre chez moi, j'ai des choses à faire. Viens me voir demain après-midi, nous parlerons de ton avenir. »
Après-midi, Didier va chez sa tante. Elle habite un vieil immeuble sur les pentes de Fourvière. L'immeuble appartient à des religieuses qu'elle loue à des personnes seules. L'allée sent les fleurs séchées et l'on entend le piano. C'est vieux, mais propre et repeint. La tante habite au premier étage, un deux pièces, un salon, salle à manger, chambre, cuisine, salle de bain. Parquet et carrelage rouge ciré. Meubles anciens d'antiquaire, une horloge, des tableaux représentant des scènes religieuses. Tout est propre et net. Elle ne reçoit chez elle ni les animaux, ni les enfants, ni les hommes, parce qu'ils s'enlisent. Didier sonne. Elle lui ouvre.
Les patins, c'est ciré.
Didier prend les patins. Elle aussi en a, il la suit. Elle le conduit dans la pièce principale et le fait asseoir dans un fauteuil. Il prend celui d'à côté. Didier regarde autour de lui et voit un piano droit près de la fenêtre. Sa tante porte une robe noire et une croix en argent dessus. Je t'ai fait venir, c'est pour te parler de ton avenir. Voilà, aux yeux de la loi, je suis ton tuteur. Tu es encore mineur pour quelques mois. Voici ce que j'ai décidé. Je ne peux pas m'occuper de toi. Je vais te mettre dans un pensionnat, un très bon pensionnat, pour que tu puisses finir tes études. Et là, je te verserai ta petite pension. Est-ce que cela te convient ?
Didier fait oui de la tête. De toute façon, que peut-il faire d'autre ? Et puis, dans quelques mois, il sera major.
Didier a vécu 15 jours seul dans la maison de ses parents, puis sa tante est venue le chercher pour le mener dans un pensionnat. Au début, Didier semble content d'être en pension, car pour la première fois de sa vie, il est entouré de jeunes de son âge. Malheureusement, les liaisons d'amitié ne se font pas à l'adolescence, mais pendant l'enfance. Les jeunes ont déjà tous leurs amis et dédaignent Didier. Didier, au milieu des jeunes, se retrouve encore une fois seul. C'est une grande déception pour lui. Alors, pour remplir son ennui, il décide de retrouver le monde des adultes, le seul qu'ils connaissent vraiment depuis son enfance. Souvent, le soir, il fugue. La direction du pensionnat ferme les yeux parce que c'est le fils d'une très riche famille et puis il est très bon élève. Il retourne à Charbonnière et tourne autour du casino, les poches pleines de billets. Ta tante l'en a donné à profusion. C'est plus simple que de donner de l'affection. À force de tourner autour du casino, il fait des connaissances. Ce sont de jeunes joueurs, amochés et raides. Didier, qui a tant besoin d'affection, pour un sourire, un mot gentil, leur glisse des billets de 500 francs dans la poche de leur veste. Le seul geste qu'on lui a appris. Si tu as besoin de quelque chose, donne de l'argent, paye. Il passe une heure ou deux avec lui, lui parle un peu, puis le quitte pour aller jouer l'argent qu'ils ont reçu.
Il va pleut. 5 rouges.
À court vers lui un jeune homme de 25 ans, grand, mince, blond, le visage rieur. « Salut, je te remercie pour ton aide. Grâce à toi, j'ai pu récupérer mon argent. Pour te remercier, je suis invité à une soirée chez une copine. Je t'invite, viens. » « D'accord. » Didier est tout heureux. Il se dit que peut-être que l'homme deviendra son ami. Ils entrent dans une vieille Mercedes blanche. File en dehors de Charbonnière. Tu verras, c'est une femme exquise. Elle a été un temps journaliste au Nouvel Observateur. Maintenant, elle vit des rentes d'un divorce avec un riche milliardaire. La voiture s'arrête devant une villa blanche de 2 étages, style moderne. Devant la villa se trouve une piscine. Lorsqu'il y arrive, il y a déjà beaucoup de monde.
Do you have someone who relies on you? c'est même pas la peine d'en parler. 50 mètres carrés, une baie vitrée, vue sur le parc, soleil toute la journée.
Ah, tu rigoles, de nous là.
Oh, bon, allez. Il n'y a pas de baie vitrée.
Charles prend par l'épaule Didier et le mène vers une femme.
C'est vrai que mon mot est charri parce que moi je passe pas la nuit ici. Hein.
Elle est grande, mince. Les cheveux blonds qui ondulent jusqu'aux épaules, le visage d'une extraordinaire beauté, avec des yeux qui ont la couleur et la brillance des émeraudes. Sa robe du soir, blanche, montre des formes parfaites. Barbara, permettez-moi de vous présenter mon sauveur.
Mais c'est un enfant.
Didier la regarde vexée. Et alors, vous n'aimez pas les jeunes? Ma mère les aimait beaucoup, surtout dans son lit.
Vous n'êtes qu'un petit goujat.
Un goujat qui a de ça. Tort de sa poche une liasse de billets. Le seul geste qu'on lui a pris.
Où vous avez pris cet argent?
Ils m'appartiennent.
Si vous croyez m'épater avec ça.
Charles dit.
Bon, je vous laisse. Didier se sent triste et désarmé devant cette femme à qui son argent n'épate pas. Il a l'air triste et boudeur. Il se dit que la soirée commence mal pour lui. Et pourtant, il aurait souhaité se faire des amis. Barbara, quelque chose fait prendre en pitié ce jeune garçon. Vous jouez à l'homme, mais vous n'êtes même pas capable de faire un nœud de cravate. Laissez-moi vous le refaire.
Il se laisse faire.
Pourquoi?
Peut-être parce que c'est la première fois qu'on s'occupe de lui pour rien. Après lui avoir fait son nœud de cravate,
vous voulez voir une coupe de champagne?
Il est pris par le charme de la femme.
Oui.
Elle va sur une table prendre deux verres de champagne, puis elle lui présente quelques amis.
De la soirée, Didier, qui est près de la piscine, est poussé dedans par un homme ivre.
Barbara, qui l'a vu, court l'aider à remonter.
Venez, je vais vous mener dans la salle de bain.
Elle le mène dans la maison. Au premier étage. Fait entrer dans la salle de bain.
Prenez un bain, puis mettez ce peignoir blanc. Vos vêtements, je vais les faire repasser. En face de la salle de bain se trouve une chambre. Couchez-vous. Je vous quitte. À tout à l'heure. Laissez votre linge dans la salle de bain.
Et elle le laisse.
À 3h du matin, une fois que la fête est finie, Barbara va rejoindre Didier.
Elle ouvre la porte de la chambre. Lampe de chevet est restée à éclairer. Un feu dans la cheminée pétille. Couché dans le lit, les draps recouvrent jusqu'à la taille son corps nu. Il dort. Elle s'approche de lui. Se penche.
Vous dormez?
Il se réveille, voit son visage près du sien, lui sourit.
Vous savez que vous êtes dans ma chambre?
Il rougit. Et se lève d'un bond.
enfilant ses vêtements qui sont sur une chaise.
Mais que faites-vous ?
Je vous cède la place.
Mais qui vous dit ?
Je vous trouve charmant, hein ? Il se redresse nu, tire de sa poche de la veste des billets.
Seul geste. Vous voulez comme les autres à cause de ça ?
Elle lui arrache l'argent des mains
et les jette dans le feu de la cheminée. Vous voyez bien que ce n'est pas à cause de cela. Je me moque de votre argent.
Elle se pense à son cou, elle embrasse.
Venez.
Elle le mène vers le lit.
Couchez-vous. Je vous rejoins.
Elle va vers une table ronde. Elle trouve une coupe de champagne et un verre. Elle remplit le verre.
Ouvre le tiroir de la table.
Prend des pilules qu'elle met dans le verre.
Que faites-vous ?
Il se lève et court vers elle.
Le verre à la main. Il lui prend le verre et le jette dans les flammes.
Mais mes yeux ne brillent plus. Si vous n'avez pas besoin d'argent, moi je n'aurai pas besoin de ça. Et il va vers elle.
Me donnez la force de vivre, moi aussi je vous aiderai à vous passer de boire ceci.
Elle se pend à son cou et lui dit,
oui, sauvons-nous mutuellement, protégez-moi.
Elle se serre très forte contre lui.
Il lui dit, moi aussi, protégez-moi.
Elle, je serai ta mère.
Lui,
je serai ton amante.
Elle, tu seras mon enfant.
Lui, tu seras ma compagne,
mère et amante.
Elle, tu me protégeras.
Lui, tu me protégeras.
Il l'embrasse.
Le lendemain matin, il se réveille. La chambre baigne de soleil.
Il est seul dans le lit. La porte de la chambre s'ouvre.
Barbara, en robe de chambre blanche, qui porte un plateau, le petit déjeuner. Elle s'approche du lit.
Bonjour. Tu as bien dormi ?
Il lui sourit et fait oui de la tête.
Mange, et si ça ne suffit pas, j'irai t'en chercher d'autres. Je te trouve un peu maigrichon et pâle.
Tu verras, je vais m'occuper de toi.
Elle l'embrasse sur la joue.
Il lui sourit et lui dit, toi aussi, tu es tout pâle. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu mets dans le champagne?
Rien, juste décomprimer pour dormir.
Et c'est dangereux?
C'est moins dangereux que se piquer.
Avec sa main, il lui caresse le visage.
Pourquoi as-tu besoin de tranquillisant ?
Ouf, il y a de cela bien longtemps, le Nouvel Observateur m'avait envoyé au Vietnam, et là j'avais vu un enfant de 15-16 ans déchiqueté par une mine.
C'était horrible.
Elle a les larmes aux yeux, il l'embrasse sur la joue.
Elle lui sourit, il lui dit,
oh, c'était le jour où ma mère m'a expliqué qu'elle s'était mariée avec mon père à cause de son argent.
C'était le lendemain de son enterrement.
Je n'ai pas faim, mais j'ai envie de faire l'amour.
Elle sourit et lui dit,
après la maman, je deviens la maîtresse.
Elle prend le plateau et le pose sur le plancher.
Quitte sa robe de chambre, qu'elle fait tomber à terre et s'allonge.
Elle tend les bras.
Viens, rends-moi heureuse.
ils ont passé toute la journée au lit. Puis, le lendemain matin, il est parti en pension pour reprendre ses affaires. Et dit au directeur qu'il désire le quitter, puisqu'il est presque major, le directeur ferme les yeux, mais écrit à la tante qui ne lui donne aucune réponse. Il vit dans la maison de Barbara. Pour la première fois, il se sent heureux parce que l'on s'occupe de lui vraiment. Barbara, pour lui, c'est sa mère, sa maîtresse. Les 20 ans de différence ne comptent pas. Ils sont même positifs, cela le sécurise. Barbara s'est mise à l'aimer, mais d'une façon étrange, ambiguë, qui l'amuse et la trouble. Elle a l'impression de vivre un insecte. Passe la plupart du temps à se baigner dans la piscine ou à faire l'amour. À faire aussi des kilomètres et des kilomètres à 100 à l'heure sur l'autoroute. À conduire. Mais aussi, quelquefois le soir, au coin du feu, ils lisent à haute voix des textes sur le nihilisme. Barbara ne boit plus. Didier ne va plus traîner aux alentours des casinos. Il a donné son adresse à sa tante qui lui envoie régulièrement sa pension, qu'il dépense pas ou très peu. Un jour, en recevant sa pension par le courrier, il dit à Barbara « Je me demande ce que cette vieille peau doit penser de notre liaison. Elle doit prier pour notre âme. Ce qu'elle ne peut pas comprendre, c'est que c'est notre liaison qui nous purifie. » Les jours passent, heureux et tendres. Barbara s'occupe de Didier pour tout. C'est elle qui lui choisit ses vêtements même. Il a meilleure mine et sourit plus souvent. Pour les 18 ans de Didier, Barbara organise une grande soirée chez elle. Tell me Didier est heureux et semble en pleine forme. Tout semble lui sourire. Barbara a été séparée de lui par les invités qu'elle doit s'occuper, mais elle observe et voit qu'il va et vient de l'un à l'autre, de l'une à l'autre.
Between one black day, black night, seem like the only way.
So I dance. Music late, nothing great. No way to differentiate.
Votre orange.
Une petite blonde bien marrante le suit comme un petit chien. Au bout d'un moment, Didier lui demande « Qu'avez-vous à me suivre ainsi ?»«
Rien, je vous trouve gentil, c'est tout. Vous me faites danser ?»
Il hausse les épaules.
« Oui. »
Didier est toute fière et heureux qu'on le trouve gentil.
Gregory looks just like a ghost, and then a beautiful girl the most. Wets her lips to say,
comme ça, hein? Mais si je suis trop, je peux partir.
Mais pourquoi tu t'énerves? Mais écoute, je faisais que m'amuser, là.
T'as une drôle de manière de t'amuser, toi.
Barbara voit qu'il passe toute la soirée avec la jeune fille et qu'il s'éclipse avec elle.
Votre égarette.
Il l'a simplement raccompagnée à pied jusqu'à chez elle. La nuit est si douce et cela fait du bien de sortir. Une demi-heure aller, une demi-heure retour. Il revient. Il est 4 heures du matin, la maison est sombre. La fête est finie, les invités sont partis, les domestiques aussi. Il entre. Monte à l'étage. Entre dans la chambre. Pareil debout, au milieu de la pièce, un verre de champagne à la main, le regard vague, les yeux qui brillent.
Où étais-tu ?
Il s'approche d'elle. J'ai raccompagné une de nos invitées.
Tout ce temps ?
Oui, je l'ai raccompagnée à pied et je suis rentrée à pied.
Tu me prends pour une idiote ?
Tu as pris des médicaments ?
Et alors, il fallait bien que je fasse quelque chose en t'entendant.
Je n'aime pas. Tu n'as rien à me dire après ce que tu m'as fait.
Je ne t'ai rien fait.
Elle prend son verre, elle veut le mettre à la bouche. Ils veulent lui prendre. Elle court vers la porte-fenêtre du balcon qui est restée ouverte. Elle tend le verre.
Tu n'as rien à m'interdire, quoi que ce soit.
Il s'avance vers elle. Elle recule. Boit et jette du balcon le verre. En s'avançant vers elle, il fait le geste de la gifler. Elle s'assoit sur le rebord de la balustrade, sourit et se jette dans le vide.
ceci s'est passé très vite. Il a tendu la main, mais c'était trop tard. La police a fait une brève enquête et a conclu un accident dû à une grande absorption d'alcool. Didier, pendant quelques mois, erre comme un somnambule. Il a encore la clé de la maison de Barbara, mais n'y va pas. Il a repris la maison de ses parents. Il passe son temps à s'enivrer dans les casinos.
Viens, va bleu. 5, rouge. 5, 5. Je crois que c'est à vous, mademoiselle.
Il dépense son argent sans réfléchir. Plus rien n'a d'importance pour lui. Les seules personnes qu'il fréquente sont des joueurs, amis d'une nuit, d'une heure, amis qui achetaient par un billet ou plusieurs de 500 francs, le seul geste d'amour de son enfance. La maison, il la remplit de gadgets inutiles. Il dépense beaucoup et sa tante et son banquier s'inquiètent. Un jour, il reçoit une convocation chez un avocat qui lui dit de faire attention à ses dépenses, autrement on serait obligé de le mettre sous tutelle. Ceci le rend furieux.
Vous n'avez pas le droit. Je suis majeur et libre de faire ce que je veux de mon argent. Il est à moi, et si je veux le dépenser, je le dépenserai.
Il sort de son compte une grosse somme d'argent liquide qu'il met chez lui et continue à dépenser. Le temps passe et se sent de plus en plus déprimé. Il se demande si la vie vaut la peine d'être vécue. Un jour, il est convoqué chez l'avocat et on lui dit qu'il doit passer une visite médicale pour être mis sur tutelle.
Je refuse. Je vais prendre un avocat pour me défendre. Et je vous préviens, je vais prévenir la presse aussi. Si vous m'enlevez l'argent, comment reste-t-il ?
Il a pris un avocat qui accepte de l'aider et continue à dépenser.
Sans cet argent, je ne représente rien. Et avec cet argent, je ne suis rien. Mais c'est l'argent qui m'a enlevé l'infection, interdit l'amour. J'aurais aimé être fils de personne, fils de pauvre. On veut m'interdire de le dépenser pour que je sois toujours riche ou pour que mes héritiers le soient.
Malgré sa famille, il continue à dépenser, la seule chose qu'on lui a apprise. Il dépense sans compter, son compte est bloqué, mais il a encore beaucoup d'argent liquide. La vie, le milieu où il circule, commence à lui peser. Il se rend compte que c'est vide, les gens, les gestes qu'il fait. Il aimerait en sortir, mais il ne sait plus. L'économe-jet téléguidé, qui est incapable de faire autre chose que de dépenser. La journée, il dort, et la nuit, il joue.
Bonsoir. Bonsoir.
Et ceci devient un cauchemar pour lui, seul, toujours seul, sans amour. Il pense souvent à Barbara qui lui a donné quelques semaines de bonheur et son corps. Quelquefois, au petit matin, il se dit qu'il ferait mieux d'aller la rejoindre. En sortant du casino de Charbonnière, un jeune homme le suit. Il est grand, brun, le visage agréable, porte un smoking noir. Il l'accoste. La nuit est douce ce soir. Oui. Didier fait quelques pas. L'homme le suit. L'homme lui dit : Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai assez de ce milieu. On voit toujours les mêmes personnes, avec les mêmes problèmes. On a l'impression de tourner en rond. Les casinos, on rencontre des joueurs, dans les bars des buveurs. Pour s'en sortir, il faut aller ailleurs. Je vous connais, j'ai lu votre histoire dans le journal. Votre problème, c'est que vous pensez trop à votre argent. Vous vivez trop avec lui, vous ne voyez que lui. C'est normal, vous tournez en rond dans un monde d'argent. Changez de monde, cachez votre argent autour de votre vie et vivez sans y penser. Vous détestez l'argent et vous passez vos soirées dans les casinos, là où il y a de l'argent, où les gens ne pensent qu'à ça. Ce n'est pas logique. Vivez pour vous et recherchez l'être, l'homme. J'aimerais devenir votre ami. Didier s'arrête, le regarde. Je vous remercie, mais c'est trop tard. J'ai trouvé ma solution. Et il le quitte. Didier est entré dans la maison avec la clé. Il est monté dans la chambre sans éclairer. Il s'est couché sur le lit. Pour la première fois depuis bien longtemps, il a bien dormi. Au petit matin, il s'est levé, est allé à la porte-fenêtre et l'a ouverte. Enjambé la balustrade et s'est jeté dans le vide.
Thank you. Radio Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le saut dans le vide. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Canu.
Là.